Vous écoutez France Culture, il est 12h30, l'heure du journal présenté par Ilan Malka. Bonjour Ilan.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Les questions de sécurité en Asie-Pacifique au cœur des débats à Manille. La capitale des Philippines s'apprête à accueillir le forum régional de l'Association des Nations du Sud-Est Asiatique. Rex Tillerson, chef de la diplomatie américaine, est sur place pour deux jours. Des ministres chinois et nord-coréens s'y trouvent également. Nous ferons le point avec Angélique Forger. C'est aujourd'hui la commémoration du premier bombardement atomique de l'histoire au Japon. Hiroshima, c'était il y a exactement 72 ans. Le pays réfléchit en ce moment à adapter sa législation au vu de la menace nucléaire qui existe justement en Asie. Nous entendrons à ce sujet Frédéric Charles, qui est notre correspondant à Tokyo. En France, 217 majeurs et 54 mineurs sont rentrés des zones de combat en Irak et en Syrie. Ils font l'objet d'une surveillance particulière. C'est ce qu'affirme Gérard Collomb aujourd'hui au journal du Dimanche. Le ministre de l'Intérieur revient également sur la politique de la France à l'égard des migrants. Nous entendrons la réaction de Pierre Henry, directeur général de France Terre d'Asile, qui, juste après ce journal, sera invité du magazine du week-end avec Isabelle Lasserre. Diplomates américains et nord-coréens réunis ensemble dans la même pièce. Cela va se produire à Manille. Le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson est dans la capitale philippine pour deux jours, tout comme Ri Yong-ho, qui est son homologue nord-coréen. Ils vont donc se rencontrer pour la première fois. Alors, il n'y aura pas de discussion directe entre les deux hommes, mais ils seront donc tous deux présents au forum régional de l'Association des Nations du Sud-Est Asiatique. Ce forum annuel réunit de nombreux chefs de la diplomatie pour évoquer les questions de sécurité en Asie-Pacifique. On sait qu'hier, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution qui renforce les sanctions imposées à la Corée du Nord. Le texte voté va entraîner la privation d'un milliard de recettes annuelles pour le régime de Pyongyang. On ne savait pas si la Chine allait approuver ou non cette résolution. Pékin a finalement dit oui. Ce matin à Manille, les ministres des Affaires étrangères chinois et nord-coréens se sont rencontrés. Précision de notre correspondante à Shanghai, Angélique Forger.
Quelques heures seulement après le vote du Conseil de sécurité de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi s'est entretenu à huis clos avec son homologue nord-coréen. Les deux hommes assistent en ce moment aux Philippines à une rencontre entre pays d'Asie du Sud-Est. D'après le journal officiel chinois Le Quotidien du Peuple, lors de cette rencontre, le chef de la diplomatie chinoise a exhorté le représentant nord-coréen à prendre une décision bonne et intelligente à l'issue de ce vote. Comprendre, vous seriez prié de faire profil bas. À la presse chinoise, Wang Yi a confié estimer que la Chine venait de jouer un rôle responsable et constructif. Un pied de nez au président américain qui accusait il y a peu la Chine dans un tweet de ne rien faire, je cite, pour aider les États-Unis avec la Corée du Nord. On le sait, Pékin est le principal allié du régime de Pyongyang, un partenaire diplomatique mais aussi économique. 90% des échanges du royaume ermite se font avec la Chine. Si Pékin n'a pas fait jouer son droit de veto, c'est parce qu'elle estime que la Corée du Nord est allée trop loin dans ses provocations, mais aussi parce qu'elle veut se poser en garde-fou. Pour la Chine, ces sanctions ne sont qu'une étape pour régler cette crise. La seule solution reste le dialogue, estime Wang Yi. Le ministre chinois en a profité pour appeler à la reprise des pourparlers à 6, c'est-à-dire entre la Chine, les États-Unis, le Japon, la Russie et les deux Corées, des pourparlers au point mort depuis des années. Ce n'est pas facile, mais nous devons travailler pour aller ensemble dans cette direction, a-t-il déclaré. Pour la communauté internationale, tout l'enjeu maintenant sera de savoir si la Chine va appliquer ou non ces sanctions.
Angélique Forger, les Japonais commémorent aujourd'hui le premier bombardement atomique de l'histoire qui a frappé il y a 72 ans Hiroshima. C'était le 6 août 1945 et justement au Japon cette année, il est question d'une révision de la Constitution pour faire face aux menaces nucléaires actuelles. À Tokyo, Frédéric Charles.
Chaque 6 août, Hiroshima lutte contre l'oubli. Selon un sondage, 80% des Japonais ignorent aujourd'hui la date précise du bombardement atomique. Les derniers survivants ne demandent qu'une chose, que l'on n'oublie pas leur souffrance pour qu'elle n'ait pas été inutile, comme s'ils redoutaient une répétition de l'histoire. Déjà, la Corée du Nord menace de faire pleuvoir ses missiles sur les bases américaines au Japon. L'une de ces bases est située très proche d'Hiroshima. Face à cette menace, sans oublier celle de la Chine, le premier ministre japonais Shinzo Abe cherche à réviser la constitution pacifiste. Ses généraux étudient la possibilité d'attaques préventives à l'aide de missiles Tomahawk sur les pas de tir nord-coréens juste avant le décollage des missiles nord-coréens. C'est moins cher, moins aléatoire que de tenter de les détruire lorsqu'ils sont déjà en vol. Mais c'est aussi contraire à la constitution pacifiste. L'an dernier, à Hiroshima, Barack Obama avait promis de débarrasser le monde des armes nucléaires. Le Japon est moins militant parce qu'il dépend du parapluie nucléaire américain. Le mois dernier, le pays d'Hiroshima s'est joint aux puissances nucléaires à l'ONU pour bouder un traité interdisant les armes atomiques. Le Japon réactive ses centrales nucléaires à l'arrêt depuis Fukushima. Il veut maintenir une capacité nucléaire pour le cas échéant se doter de l'arme atomique.
Ce qui se passe au Venezuela, c'est une prise d'otage totale de toutes les institutions par un seul camp, par un seul parti politique. Voilà ce que déclare Julio Borges, président du Parlement, qui est la seule institution contrôlée par l'opposition au Venezuela. On rappelle qu'hier, Luisa Ortega, procureure générale du Venezuela et opposante, a été limogée par l'Assemblée constituante fraîchement élue. Cette chaviste historique, très critique envers le régime du président actuel Nicolas Maduro, a déclaré qu'elle ne reconnaissait pas cette décision de limogeage. Hier également, on a appris la libération de l'un des chefs de l'opposition vénézuélienne. Leopoldo López a pu quitter donc sa cellule hier soir. Il est de nouveau assigné à résidence à son domicile à Caracas. Son incarcération avait suscité de nombreuses réactions de réprobation à l'étranger. En France, 217 majeurs et 54 mineurs sont rentrés des zones de combat en Irak et en Syrie. Ce sont les chiffres que donne aujourd'hui le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb dans un entretien au journal du dimanche. Il souligne que ces personnes font l'objet d'un traitement judiciaire systématique et que nombre d'entre eux sont actuellement incarcérés. Gérard Collomb évoque également la thématique des migrants. Oui aux réfugiés, non aux migrants économiques, c'est la position de la France qui est donc rappelée par le ministère de l'Intérieur. Pour en parler, Pierre Henry, directeur général de France Terre d'Asile, est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes donc l'invité du magazine du week-end avec Isabelle Lasserre dans quelques instants, mais vous avez accepté de répondre à quelques questions dans ce journal. Alors voici les propos précis de Gérard Collomb dans le JDD. Si l'on ne fait pas la distinction entre droit d'asile et autres motifs de migration, ce sera le droit d'asile qui sera remis en cause. Quel commentaire vous inspire ces propos ?
C'est clair que le droit d'asile ne peut se fondre dans les politiques migratoires. Mais il y a des organismes dont c'est le métier de reconnaître le statut de réfugié. Il s'appelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il s'appelle la Cour nationale du droit d'asile, qui est l'instance de recours. Et en aucune façon, c'est au ministre de l'Intérieur de dire qui peut accéder au droit d'asile ou non. C'est une différence qui est extrêmement importante. Ensuite, je vous dirais que toute personne qui arrive sur le territoire national doit être traitée en dignité. On ne trie pas les gens, ce ne sont pas des ordures, ce sont des êtres humains et il nous revient de les accueillir en dignité.
Alors, autre propos de Gérard Collomb, donc dans cette interview du JDD, il dit ceci, les enquêtes d'opinion montrent une réticence de plus en plus grande des Français sur la question de l'accueil des migrants. Là encore, quel commentaire ?
C'est très contrasté, la situation dans le pays est très contrastée, il y a des réserves de générosité, de solidarité énormes. À partir du moment où le sentiment dominant n'est pas l'impuissance des politiques publiques, ce qui nourrit le rejet aujourd'hui, ce sont les images des migrants qui sont laissés à la rue, qui sont laissés à l'abandon, et cela depuis des années. C'est le sentiment que les politiques publiques interviennent toujours trop tard et trop peu. C'est cela qui nourrit le populisme. Mais pour le reste, je peux vous assurer que la générosité, elle est là à partir du moment où on anticipe, où on organise, où on planifie. C'est à partir de ce moment-là que l'on apaise les tensions.
Merci beaucoup Pierre-Henri, on vous retrouve dans quelques instants pour le magazine du week-end avec Isabelle Lasserre. Au Royaume-Uni, un documentaire sur la princesse Diana fait polémique à l'approche du 20e anniversaire de sa mort. Le 31 août 1997, la chaîne de télévision britannique Channel 4 prévoit la diffusion de ce film ce soir. Il contient des enregistrements inédits de la princesse où on l'entend partager des moments très intimes de sa vie, ce qui n'est pas du goût de ses proches. Nous y reviendrons plus en détail tout à l'heure dans notre édition de 18h. Quelques averses orageuses sont à prévoir du côté des Alpes dans l'après-midi. Ailleurs, ce sera globalement du beau temps, ensoleillé avec la fin de l'épisode caniculaire dans le sud-est. Les températures de l'après-midi partent de 18 degrés près de la Manche et elles montent jusqu'à 33 dans les régions méditerranéennes. Ce journal a été préparé avec Martin Descloseaux. Il a été réalisé à la technique par Jean-Guilain Meige.